RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI matin.
Et un nouveau journal avec vous, Martin Guez. À la une, la Syrie revit petit à petit.
6 mois après la chute de Bachar al-Assad et la fin de plus de 50 ans de règne du clan familial, le pays se reconstruit. Nous serons à Deraya, ville clé de la révolution de 2011, ville laminée, dévastée, qui relève la tête et tente de repartir sur des bases démocratiques, vous l'entendrez.
Miguel Uribe lutte en ce moment pour sa vie.
C'est ce qu'écrit son épouse sur les réseaux sociaux. Miguel Uribe, prétendant à la présidentielle en Colombie, touché par balle hier durant un meeting près de Bogota. Un adolescent de 15 ans a été arrêté, suspecté d'avoir tiré 3 fois sur le sénateur de 39 ans. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans, alors que s'ouvre demain à Nice la conférence de l'ONU à ce sujet. Des scientifiques présentent à cette occasion Starfish, baromètre qui évalue la santé de l'océan, un bilan de santé inquiétant. Enfin, Espagne-Portugal, en finale de la Ligue des Nations, le brillant élève Lamine Yamal se confronte au maître Cristiano Ronaldo.
C'était il y a 6 mois, jour pour jour, la Syrie changeait de visage.
Après s'être emparé une à une des plus grandes villes du pays, le groupe armé Ayat Tahrir al-Sham prenait Damas et chassait Bachar el-Assad du pouvoir en Syrie. Après plus de 50 ans de règne du clan Assad, un tournant majeur dans l'histoire du pays, où tout reste à bâtir, les chantiers économiques notamment sont conséquents, mais progressent notamment à Deraya, dans la banlieue de la capitale. Deraya, symbole de la révolution de 2011, qui fut pilonnée, assiégée, vidée de ses habitants. Mais aujourd'hui, la ville reprend vie et le tissu politique local se régénère tout doucement. Reportage sur place de notre correspondant Mohamed Erami.
Dans une salle fraîchement réhabilitée de Deraya, 3 intervenants sont assis derrière une longue table face à des dizaines d'habitants alignés sur des chaises. Un micro tourne dans la salle. Pour la première fois depuis des années, les habitants débattent à haute voix de leur avenir.
À chaque fois qu'il y a un événement ou un rassemblement politique qui cherche à nous réintégrer dans le tissu social, je fais en sorte d'y participer. Pour moi, c'est comme ça qu'on construit l'avenir de la Syrie.
Ville symbole de la révolution pacifique, Deraya a été détruite à 90% par le régime, assiégée pendant des années. Depuis la chute du pouvoir central, les habitants reviennent et réclament une chose, participer.
Aujourd'hui, je me considère comme une gardienne du pays, pour éviter qu'on refasse les erreurs du passé, celles qui mènent à de nouvelles révolutions.
C'est l'association Mars qui anime ces sessions. Elle forme les habitants aux droits politiques, au fonctionnement démocratique, à la prise de parole. Une manière d'amorcer localement une reconstruction citoyenne. Hélène Michalak en charge de la coordination de l'ONG.
Nous, notre but avec Mars, c'est d'organiser ces discussions et de former les jeunes à la pensée politique, à la réflexion, à la pensée critique, aux choses plus classiques, le droit constitutionnel, comment on crée un parti politique, comment on organise des élections.
La salle où se tiennent ces réunions n'existait pas encore en décembre. C'est l'un des rares bâtiments neufs de la ville, un symbole, celui d'un pays en ruine qui tente, lentement, de rebâtir sa démocratie de la base vers le haut. Mohamed Erami, Deraya, RFI.
6 mois sans Bachar al-Assad en Syrie, 20 mois de guerre à Gaza et plus de 54 000 morts dans l'enclave palestinienne.
Un bilan qui s'est encore alourdi ce samedi. La défense civile gazaoui qui fait à 36 nouvelles victimes. Des Palestiniens tués par des tirs de l'armée israélienne, dont 6 près d'un centre de distribution de la GHF, fondation soutenue par les États-Unis et Israël. Et hier à Rome, 300 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale italienne pour demander l'arrêt immédiat des massacres à Gaza.
En Colombie, Miguel Uribe dans un état critique.
Se prétendant à l'élection présidentielle, blessé par balle, touché par 3 tirs, dont 2 à la tête. Un attentat, selon le gouvernement, contre ce sénateur conservateur de 39 ans. Il est en plein discours à la tribune, dans l'ouest de Bogota, quand des coups de feu ont retenti. Il lutte en ce moment pour sa vie, a écrit son épouse sur le compte X de Miguel Uribe. Correspondance à Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Les tirs ont éclaté en fin d'après-midi. Miguel Uribe, qui prononçait un discours devant quelques dizaines de badauds, s'est écroulé. Il aurait reçu 2 ou 3 tirs dans le dos, selon le témoignage d'un ambulancier. 2 autres personnes ont été blessées. La police affirme avoir arrêté l'individu qui a tiré. Il s'agit d'un mineur de 15 ans. La violence politique a cédé depuis plusieurs années en Colombie et cet attentat a créé la surprise. Tous les responsables politiques l'ont énergiquement condamné. Le président Gustavo Petro a annulé un déplacement prévu en France. La campagne pour la présidentielle de mai 2026 n'a pas officiellement démarré, mais elle est dans tous les esprits et elle attise tensions et rivalités. Miguel Uribe briguait l'investiture de son parti, le très à droite Centre démocratique, fondé par l'ancien président Alvaro Uribe. Les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. Mais le jeu électoral au sein du parti et dans le pays est encore très ouvert. Miguel Uribe ne dépassait pas 4% des intentions de vote dans les derniers sondages. Difficile de comprendre qui a pu vouloir le tuer. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Et Gustavo Petro a annulé sa venue à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui commence demain en France.
Un sommet qui débute donc ce lundi à Nice, mais plusieurs congrès préliminaires se tiennent sur la Côte d'Azur. Et c'est à cette occasion qu'a été publié le tout premier baromètre Starfish qui permet d'évaluer l'état de santé des océans. Un baromètre qui s'appuie sur plusieurs indicateurs clés. Starfish qui se veut aussi pédagogique et accessible à tous les citoyens, Pauline Glaise.
Starfish, c'est une étoile de mer en anglais. Le symbole de ce baromètre n'a pas été choisi au hasard, explique Pierre Bahurel, directeur de Mercator Océan.
Une étoile de mer à 5 branches. On explique que pour aborder ce sujet océan, on ne peut pas se contenter d'une seule branche. C'est-à-dire qu'on va vous décrire l'état de l'océan, branche numéro 1, mais on va regarder les pressions de l'homme sur l'océan, branche numéro 2, et les conséquences néfastes que cela peut créer, branche numéro 3. On va regarder également les actions positives de protection et les opportunités que cela peut créer, branche numéro 5.
C'est un bilan de santé de l'océan et il n'est pas en grande forme. Plus de 1600 espèces marines risquent de disparaître. Depuis 1900, les eaux ont monté de 23 cm et les pressions augmentent. Toujours plus d'émissions de CO2 et la pêche non durable concerne près de 38% des captures. Côté opportunité, les ventes de produits pharmaceutiques d'origine marine ont augmenté de 7,5% en 5 ans. Car Starfish n'est pas qu'un baromètre environnemental.
La méthode, ça a été de rassembler des scientifiques de différentes spécialités, des économistes, des spécialistes de la physique de l'océan, de la biologie. Et l'angle, vraiment, ça a été de regarder les relations entre l'homme et l'océan, ou l'humanité et l'océan.
Le nombre de migrants morts en mer a aussi été comptabilisé, 9002 l'an dernier, un record en 10 ans. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Et Starfish qui a vocation à être publié tous les ans, en date du 8 juin, une date qui coïncide avec la Journée mondiale des océans.
RFI 9h07 à Paris et à Gitega, le Burundi dégringole au classement mondial de la liberté de la presse.
Autrefois modèle sur le continent, dans le top 100 établi par Reporters sans frontières au tournant des années 2010, le petit pays de la région des Grands Lacs a plongé seulement 125e de ce même baromètre cette année. Et cela se vérifie sur le terrain lors de la couverture des élections législatives et communales. Cette semaine, les médias ont été mis sous cloche par le pouvoir. Seuls ceux acceptant de diffuser en même temps les mêmes informations ont reçu une accréditation, une véritable chape de plomb sur l'information. Esdras Dikoumana.
Ce sont 30 radios, 7 télévisions et 30 médias de la presse écrite ou en ligne qui se sont mis ensemble pour couvrir les élections de jeudi au Burundi. Et c'est une commission dirigée par un directeur général du ministère de la Communication qui a trié pour cela les présentateurs et les quelques 300 journalistes déployés sur le terrain pour couvrir le vote. Papier radio, reportage télé ou encore poste à publier sur les réseaux sociaux, chacun de ces journalistes devait soumettre sa production à une rédaction qui avait le droit de les censurer. Et il ne s'en est pas privé. Écoutez ce journaliste burundais, nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat.
Il y a des irrégularités qui ont été rapportées sur terrain. Il y a des journalistes indépendants qui avaient essayé de défendre l'équilibre de l'information, mais malheureusement, qui n'ont pas pu continuer parce que la rédaction centrale les bloquait directement. C'est-à-dire qu'on était sous contrôle, on signalait l'information, on est sur terrain, on a vu, on a constaté. Au niveau de la rédaction centrale, on bloquait.
Tout au long des opérations de vote, la synergie des médias du Burundi assurait que tout se passait bien, mais ajoute-t-il...
Ça ne correspond pas à ce qui a été vu sur terrain.
Bourrage d'urne, vote multiple ou encore des électeurs forcés de voter pour les candidats du parti au pouvoir, tout cela a été passé sous silence, confirme d'autres journalistes burundais qui se disent totalement muselés aujourd'hui.
Et l'actualité africaine, c'est aussi ce matin le Rwanda qui claque la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après le 26e sommet de la CEAC hier à Malabo, la présidence tournante qui devait échoir à Kigali. Mais c'est finalement la Guinée équatoriale qui reste à sa tête pour une année de plus. Le Rwanda qui déplore l'instrumentalisation de l'instance par la RDC.
En Italie, les citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche et demain.
Et pour voter sur deux grands thèmes majeurs, le droit du travail et les modalités de naturalisation. Un référendum dit abrogatif qui pourrait permettre à l'Italie de s'aligner sur ses voisins européens en matière d'accès à la citoyenneté. Arim Lipold.
Il s'agit de modifier une loi italienne de 1992. Aujourd'hui, les ressortissants non européens doivent résider légalement en Italie pendant 10 ans avant de pouvoir demander la citoyenneté. Le référendum propose de ramener cette durée à 5 ans sans toucher aux autres critères, le niveau de revenu, l'absence de condamnation pénale et la maîtrise de la langue italienne. C'est l'opposition de gauche qui est à l'origine de ce référendum. Elle avait recueilli plus de 500 000 signatures en septembre dernier, forçant ainsi le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni à l'organiser. Mais ce gouvernement ne cache pas son hostilité à toute réforme de la législation sur la citoyenneté. Il mise sur une faible participation car pour être valide, le référendum doit franchir le seuil de 50% de votants. Si le oui l'emporte et que le quorum est atteint, l'Italie rejoindrait alors d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni qui autorisent déjà l'accès à la citoyenneté après 5 ans de résidence légale.
Explication signée Achim Lippold.
Enfin un match dans le match ce soir à Munich, un passage de relais entre deux générations.
Une pépite de 17 ans contre une légende de 40 ans, le prodige Lamine Yamal qui rencontre pour la première fois de sa carrière le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. L'Espagnol débute sa carrière, le Portugais la termine. Il se croise pour un duel ibérique en finale de la Ligue des Nations, Antoine Grenier.
Comme un symbole, comme si ces deux-là étaient amenés à se croiser et qu'ils avaient tout fait pour. Ce sont eux qui portent leurs équipes respectives en demi-finale.
Nuno Mendes, Ronaldo !
23 ans les séparent, leur palmarès compte chacun un titre de champion d'Europe. Ronaldo Yamal, l'expérience et la fougue, le professionnalisme poussé à l'extrême face à la confiance de la jeunesse, à la limite de l'insouciance d'ailleurs, puisqu'au moment d'affronter Ronaldo, l'Espagnol s'avance presque les mains dans les poches.
Bien évidemment, Ronaldo est une légende du football. J'ai un respect immense pour lui. Maintenant, je vais faire mon travail qui est d'essayer de gagner cette finale. C'est tout.
Un élève ambitieux, face au maître plein de mansuétude. Un Ronaldo qui a déjà grimpé les cimes au pied desquelles se trouve Yamal. Au crépuscule de sa carrière, le quintuple Ballon d'Or se mue en vieux sage et rappelle que malgré tout ce qu'il a déjà montré, le jeune Espagnol n'en est qu'à ses débuts.
Pour le bien du football, il faut qu'il puisse profiter d'un tel talent pendant de nombreuses années. Qu'il soit en paix, qu'il grandisse à sa manière, c'est pourquoi je veux lui enlever cette pression et le laisser tranquille. Je pense que tout le monde peut, à sa manière, l'aider en le laissant tranquille, parce que du talent, il n'en manque pas.
Des conseils, mais pas de cadeaux. À l'Allianz Arena, Cristiano Ronaldo a bien l'intention de rester le maître encore un peu avant de laisser la place. Antoine Grenier, Munich, RFI.
Voilà, pas de cadeaux de Ronaldo. Lamine Yamal veut faire mal, ça donne envie, n'est-ce pas Julien? Espagne-Portugal, finale de la Ligue des Nations, que l'on vous fera vivre en direct en intégralité à partir de 19h, temps universel sur RFI.
Vivement, merci Martin Guez. Bon dimanche. RFI matin, troisième et dernière heure. Dans un peu moins de 20 minutes, un nouveau journal Afrique est l'une des innombrables conséquences de la suppression des financements américains pour l'aide à l'étranger, des contraceptifs destinés aux femmes vulnérables en Afrique subsaharienne, mais bloqués et menacés de destruction. Des révélations du Washington Post dont on parle plus en détail à 7h30, temps universel. À suivre d'ici là, notamment l'actualité politique en France et notre reportage culture au festival Sakifo à La Réunion. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Avec vous, Paul Lonsin-Spinelli, cette semaine, les hebdos français se mettent à l'agenda des océans.
SOS, océan en détresse, titre La Tribune dimanche ce matin, alors que ces espaces qui recouvrent 70% de notre planète sont au cœur de la conférence des Nations Unies qui s'ouvre demain à Nice, dans le sud de la France. Cette fragilité et cette lente destruction des océans, j'en ai été témoin pendant 114 jours lors du Vendée Globe, alerte Fabrice Amedeo. Le navigateur et journaliste retrace son parcours autour du monde en mentionnant notamment ces essaims de bateaux de pêche chinois qui pillent l'océan de sa biodiversité.
La Chine et les États-Unis, deux des puissances maritimes les plus gourmandes.
Avec pour enjeu central l'exploitation des minerais, Pékin qui multiplie les campagnes exploratoires dans le Pacifique, tandis que les compagnies minières américaines, elles, sont encouragées par Donald Trump, analyse l'Express. Dans le Nouvel Obs, le chercheur Emmanuel H. décrypte un retour brutal à une géopolitique des matières premières, cobalt, cuivre, nickel ou manganèse, devenant essentiel pour les transitions numériques et bas carbone. Dans les mêmes colonnes, le professeur Stéphane Goud s'interroge sur l'utilisation de ressources à plus de 4000 mètres sous l'eau, alors que les mêmes sont déjà largement exploitées dans un contexte terrestre. De quoi faire craindre à Fabrice Amedeo une catastrophe écologique qui se prépare, notamment car brasser ces sous-sols sous-marins, ces sols sous-marins, entraînerait le relâchement massif dans l'atmosphère du CO2. CO2 stockée par l'océan.
Ces océans deviennent donc des espaces de confrontation majeure.
Des zones où une révolution technologique est en cours entre drones, robots et intelligence artificielle, liste l'Express dans son dossier « La guerre des abysses a commencé », et ce notamment pour mettre la main donc sur ses ressources, mais pas que, puisque l'hebdomadaire met en une Vladimir Poutine et ses tentations d'attaquer l'Europe. C'est presque logique que ces pages marines s'ouvrent avec l'exemple du Yantar, navire russe dédié sur le papier à la recherche océanographique, mais qui en fait n'en a cure de l'étude des courants marins, du plancton et des cachalots. Ce qui intéresse son équipage, c'est de recueillir des renseignements, de mettre en œuvre de façon masquée des mini-sous-marins. C'est aussi le genre de bâtiment à l'origine de l'arrachage de câbles en mer Baltique, une douzaine en un an contre l'Express, officiellement touché par inadvertance par des cargos russes pourtant bien renseignés sur leurs emplacements.
Un autre dossier géopolitique à la une cette semaine, Paul, la guerre à Gaza.
Le Point y consacre sa page de couverture avec ce titre « Où va Israël ?» et cette photo d'une manifestante fin mai à Jérusalem réclamant la libération des otages, un sujet relégué au second plan de la stratégie de Benjamin Netanyahou, d'autant plus depuis que le premier ministre israélien a approuvé à la fin du mois dernier un plan pour la conquête de la bande de Gaza, alors même que l'idée d'une victoire totale est illusoire, admet Tamir Ayman, ancien chef des renseignements de l'armée israélienne consulté par Le Point. D'ailleurs, la plupart des proches de familles d'otages n'en peuvent plus et réclament l'arrêt des combats, comme Yotam Cohen, dont le frère est retenu dans l'enclave palestinienne. Cela peut sembler contradictoire, mais tant que la guerre continue, le Hamas se renforce, assène-t-il. Au final, concède cet homme de 23 ans, nous sommes tous perdants, les otages, la société israélienne et les Gazaouis. Tuer des civils palestiniens ne fera pas libérer mon frère.
Enfin, cet hommage à un grand historien français.
Pierre Nora, disparu à l'âge de 93 ans, c'était lundi. Un historien de la mémoire nationale, titre sobrement Le Point, l'agitateur des sciences humaines, comme le surnomme le Nouvel Obs, celui qui a longtemps travaillé en maison d'édition. Vous êtes Gallimard, plus que les Gallimard, lui aurait lancé le PDG. Répété qu'il avait édité plus de 1000 livres et semblait compter parmi ces monuments paisibles et gentiment pontifiants que les honneurs façonnent. Mais le Nouvel Obs nous fait redécouvrir aussi la modestie de Pierre Nora, qui nomme son inconfiance dans son autobiographie « Une étrange obstination » parue en 2022. Pendant plus de 60 ans, il aura donc régné sur les sciences humaines, éditant au passage quelques-unes des figures les plus illustres de la pensée du XXe siècle, comme Michel Foucault ou Hannah Arendt.
Et son œuvre personnelle avait embrassé la célébrité avec la publication des Lieux de mémoire.
Oui, dans les années 1980-1990, ses ouvrages ont permis à Nora de définir rien de moins que ce qu'est l'identité française, constate le Nouvel Obs. Avec ses amis, Proust n'était jamais très loin, rappelle Le Point, les Lieux de mémoire. Ça a été sa recherche du temps perdu. Il s'agit de deux œuvres cathédrales. Pierre Nora avait pourtant fini par confier Au Point que la mémoire était devenue son enfant dévoyé virant au monstre, un objet de guerre reléguant l'histoire au rang de prétexte récupéré pour des raisons idéologiques où l'on ne respecte plus ce qui peut nous unir.
Merci Paul Lonsin-Spinelli, bonne journée. L'actualité politique en France. À deux ans de l'élection présidentielle, la course des petits chevaux a commencé dans le socle commun entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, mais aussi Gérald Darmanin. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
Le ministre de la Justice espère faire partie du casting des présidentiables et pour y parvenir applique les bonnes recettes de son mentor en politique, Nicolas Sarkozy, être partout tout le temps.
Oui, Gérald Darmanin maîtrise parfaitement cet exercice. Il l'a encore montré cette semaine après les violences qui ont eu lieu en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il a saisi cette occasion pour proposer de changer la loi, de la durcir et ainsi endosser le costume du défenseur de l'ordre en empiétant sur les plates-bandes de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur largement critiqué sur sa gestion des événements. Gérald Darmanin a senti qu'il y avait une brèche et dans son entourage, on ne s'est pas privé pour pointer les dysfonctionnements du dispositif de sécurité en déclarant si Darmanin avait été ministre de l'Intérieur, Laurent Laurent Wauquiez aurait été le premier à demander une commission d'enquête et en rappelant que pendant les Jeux Olympiques, quand il était encore place Beauvau, il n'y avait pas eu de mort. Une manière de tacler un concurrent potentiel pour 2027.
Une présidentielle qui approche, Gérald Darmanin veut donc monter en puissance.
Exactement, on va bientôt entrer dans les choses sérieuses et un député macroniste pense que Gérald Darmanin ne s'interdit rien. Autrement dit, s'autorise à croire qu'il a une chance en 2027. L'intéressé a d'ailleurs confirmé qu'il pensait à la présidentielle il y a quelques jours dans une émission télévisée Ambitions Intimes où l'animatrice Karine Lemarchand recueille les confidences des politiques. Nicolas Sarkozy lui-même voit un destin présidentiel pour Gérald Darmanin et une ministre de droite n'en doute pas. Le garde des Sceaux a une ambition.
Mais Valérie, est-ce que l'ambition suffit pour gagner sa place sur la ligne de départ ?
C'est une condition sine qua non, mais pas une condition suffisante. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, lui-même déjà candidat déclaré à la présidentielle, on relativise d'ailleurs sans magnanimité les chances de Gérald Darmanin de concourir. Un maire horizon s'interroge, qui est capable de financer une campagne ? Gabriel Attal, oui. Édouard Philippe, oui. Pas Gérald Darmanin. Un ministre proche du maire du Havre pense lui qu'il y a un cran supérieur pour être présidentiable que Gérald Darmanin n'a pas atteint. Mais une ministre centriste affirme, elle, que Gérald Darmanin a un atout. Il sait parler aux gens plus populaires. Un petit plus et quelques moins pour Darmanin.
Valérie Gasse, merci beaucoup. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan et nous sommes à la veille de l'ouverture du sommet des Nations Unies sur les océans à Nice, dans le sud de la France. Les scientifiques, eux, se sont déjà réunis en pré-congrès et parmi leurs principales recommandations figure la préservation et la restauration des récifs coralliens victimes du pire épisode de blanchissement jamais observé. Une récente étude montre comment les poissons clowns parviennent tout de même à s'adapter. Ils rétrécissent quand les coraux blanchissent.
Rétrécir pour ne pas mourir. L'astuce est de taille. C'est même une question de survie pour les poissons clowns. À l'image du célèbre Nemo de dessin animé, ces petits poissons très colorés vivent en symbiose avec les anémones de mer. Sauf que les anémones, comme tous les coraux du monde, vont mal. Elles perdent leur couleur. Cette année 2025 a même vu le pire épisode de blanchissement jamais observé en raison de la hausse de la température dans les océans. Sachant que les massifs coralliens tropicaux abritent un tiers de la biodiversité sous-marine, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. Mais il y a tout de même une note d'espoir, ou plus exactement de résilience, du côté des poissons clowns. Avec cette étude, parue le 22 mai dernier dans la revue Science Advances, la biologiste et plongeuse Melissa Versteeg et ses collègues de l'Université de Newcastle et de la Société internationale des récifs coralliens ont étudié pour comprendre l'impact des conditions environnementales sur la croissance des poissons coralliens plusieurs couples reproducteurs de poissons clowns ayant élu domicile dans les massifs coralliens de Kimbe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De février à août 2023, date d'un autre épisode particulièrement intense de blanchissement, où la température de l'eau avait dépassé les 32 degrés, ils ont plongé avec épuisette, pieds à coulisses et thermomètre pour mesurer pendant 6 mois consécutifs l'évolution de la taille de ces poissons clowns en fonction de la température de l'eau.
Mais Caroline, pourquoi suivre les poissons clowns en particulier ?
D'abord parce qu'ils restent dans le périmètre de leur anémone et qu'ils sont très faciles à identifier avec leur couleur et leur motif unique à chaque individu. Mais aussi et surtout parce que chez les poissons clowns, la taille a une grande importance et varie en fonction de la hiérarchie sociale. Au sommet, la plus grande, c'est la femelle reproductrice. C'est elle qui règne sur le territoire de l'anémone autour de laquelle vit le groupe, a expliqué Melissa Versteeg au quotidien Le Monde. Vient ensuite le mâle, reproducteur un peu plus petit, et enfin les dominés, des juvéniles qui ont intérêt à ne pas trop grandir. Pour éviter les conflits, ces poissons clowns de rang inférieur gardent une taille d'environ 80% inférieure au couple dominant. Et ce que cette analyse a démontré, en mesurant la taille de 134 poissons clowns pendant 6 mois, tout en relevant parallèlement le niveau de la température de l'eau, c'est que la plupart des poissons clowns, 101 sur 134, ont rétréci, rapetissé au moins une fois au fur et à mesure que la température de l'océan Pacifique a augmenté. Ils ont perdu en moyenne 0,5% de leur taille initiale et jusqu'à 7% pour ceux, 41% d'entre eux, qui ont rétréci plusieurs fois, ce qui est absolument énorme. 7%, ça équivaut pour une femme de 1m65 à 12 cm en moins, ce qui n'est pas rien. Et ce n'est pas tout. En démontrant cette surprenante relation de cause à effet entre stress thermique et raccourcissement corporel, les chercheurs ont aussi découvert que les poissons ayant rétréci au moins une fois avaient de bien meilleures chances de survie que les autres. Plus 78% exactement. Et même que les couples de poissons-clowns qui ont rétréci ensemble de concert ont eu une probabilité de survie de 80% supérieure aux autres couples. Reste à savoir si ce rétrécissement probablement dû, c'est l'hypothèse de cette étude, à l'activation d'une hormone de croissance sous l'effet de la chaleur, pourrait être à l'œuvre chez d'autres espèces de ces récifs coralliens ou si c'est une adaptation spécifique des poissons-clowns qui n'ont décidément pas fini de nous surprendre et de nous en faire voir de toutes les couleurs du vivant.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve cette semaine en direct de Nice à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Au programme, autour de la question?
Demain, pourquoi une telle biodiversité dans les océans, des dauphins jusqu'aux crevettes? Et mardi, comment la communauté scientifique, au nord comme au sud, se mobilise pour les océans?
Merci Caroline Lachowski. Bientôt 7h30 en temps universel et avant le prochain journal, notre reportage culture à La Réunion ce matin où le festival Sakifo tire aujourd'hui le rideau sur sa 22e édition. Et en beauté, le collectif Applause a fait monter la fièvre hier soir sur scène. Et notre envoyé spécial sur place, c'est José Marinho.
Il s'appelle Applause, à la tête de ce collectif Matteo du groupe marseillais Chinese Man.
C'est un projet que j'ai lancé il y a 2 ans avec l'idée de produire aussi, de rassembler des artistes avec des esthétiques musicales différentes.
Parmi eux, H, producteur mauricien de musique électronique, passionné de sons qui secouent le corps et l'esprit comme le chata.
C'est style martiniquais, dancehall.
La scène mauricienne bouillonne, propulsée par une nouvelle génération d'artistes. C'est dans ce contexte en plein essor que le fondateur d'Applause a choisi d'accompagner H dans ses explorations sonores au-delà de son île dans l'océan Indien.
H fait partie des producteurs qui sont vraiment importants à Maurice. Et je pense que c'est ça, les connexions. J'aime cette idée que la scène émergente puisse rencontrer des scènes plus anciennes comme moi je peux défendre. Maurice amène énormément de choses dans la musique en ce moment, donc c'était super de pouvoir être là et de rencontrer ces artistes, quoi.
Je pense que les artistes ont besoin de ça parce qu'il y a beaucoup de producteurs, DJ, les Maurice qui représentent ce style aussi, ouais.
Matteo et H, deux parcours, une même envie de casser les frontières musicales. Une rencontre animée par le goût du groove, de l'expérimentation et surtout de la scène.
C'est un projet qui est bien sûr pensé pour les DJ au départ. Je me suis dit, pourquoi pas créer une branche vraiment dédiée au clubbing. Donc tout ce qui se passe dans Applause, faut que le son puisse être joué par un DJ, quoi.
Ce qui les rassemble, une énergie brute portée par la drum and bass et les rythmes afro-caribéens. Mais pour le Marseillais, un bon dance floor, c'est avant tout un espace libre, sans étiquette ni frontières, où la musique parle plus fort que tout.
Quand on est tous autour d'une musique qui nous fait vibrer, il n'y a plus d'histoire, d'identité et de territoire et de posture, quoi. On est là pour vibrer sur un son qui nous parle et c'est ça qui nous unit, en fait.
Pour le collectif Applause, danser, c'est déjà résister à un monde gouverné par la peur, déconnecté de la joie collective. José Marinho, La Réunion, RFI.
votre reportage culture. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous nous écoutez notamment sur YouTube où vous êtes plus de 1600 connectés. Ousmane nous dit bonjour RFI. Et Chancel salue tous les auditeurs depuis Brazzaville au Congo. Bonjour à tous les deux. Il est 7h30 en temps universel.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en concert à Paris le 26 juin. La reine du dancehall made in Guinée vous attend pour un show exceptionnel au New Morning. Invitation gratuite à retirer sur le site du New Morning, sur With Event et sur rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Et si on osait sortir des sentiers battus à loco-grillade pour filer vers une gambas snackée à l'huile rouge, compotée de tomates déglacées au vinaigre de mangue, semoule de niébé en accompagnement. Oui, je sais, pure merveille. Black Culinaria, cuisine noire, nouvelle, pépite au pluriel, avec la chef Sonia Marty-Socoury tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.